Carnet de santé sur France Inter en compagnie de Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour.
C'est près de Nantes que se tient ce week-end le congrès annuel de l'association AIDE.
Première association de lutte contre le VIH, SIDA et les hépatites. Et ce sont les frontières de la lutte qui vont être déclinées lors de ce congrès. Les frontières géographiques, car le virus évidemment ne s'arrête pas aux frontières, mais frontières aussi des droits.
Oui, parce que les personnes séropositives, comme d'autres victimes d'ailleurs de maladies chroniques, subissent en plus des discriminations.
Dans leur profession, quand elles souhaitent emprunter. Aurélien Beaucamp, vous êtes le président de AIDE. Il y a toutefois un domaine où l'on a fait beaucoup de progrès, c'est celui des traitements. Au moins là, la situation a évolué.
Effectivement, on n'est plus dans la situation des années 80, des 90, situation d'urgence. Mais la vision d'une personne qui vit avec le VIH aujourd'hui est toujours la même. Une maladie honteuse, finalement, quelqu'un qui va être rejeté. Et ça, ça n'a pas changé.
Donc les personnes ne le disent toujours pas et donc elles n'ont pas la même place dans la société.
Tout à fait. Pour moi, c'est essentiel que, effectivement, au même titre qu'une personne qui a pu vivre un moment avec un cancer, puisse vivre de la même façon, puisqu'on sait aujourd'hui que, de toute façon, une personne qui est sous traitement ne transmet plus le VIH. C'est important de le rappeler.
C'est une information qui n'est pas assez connue, ça, dans le grand public.
Exactement.
Une personne qui est sous traitement, qui a sa charge virale quasi indétectable, ne va plus transmettre le virus.
Tout à fait. On le sait au niveau des associations. Effectivement, au niveau de la société, ça ne passe pas. Ça fait des années qu'on le travaille. On a lancé une grande campagne les dernières qui s'appelle...
C'est peut-être parce qu'on ne le dit pas assez. Aussi.
Mais on le dit pas assez, hein, mais même malgré le fait qu'on a pu faire une campagne qui s'appelle Révélation, où c'était ces supports en noir et blanc avec des couples sérodiscordants, donc qui n'avaient pas le même statut sérologique, on démontrait bien qu'effectivement, une personne, à partir du moment où elle est dépistée, qu'elle est sous traitement, qu'elle est indétectable, elle ne transmet plus le virus.
Et malgré ça, donc cette personne est toujours considérée comme un peu à part, c'est-à-dire qu'elle cache sa séropositivité dans son milieu professionnel et dans son milieu familial,
ouais,
très souvent
fait.
Aussi.
Il y a un non-dit, mais je pense qu'on en est toujours là dans l'imaginaire collectif.
Donc c'est ces frontières-là qu'il faut dépasser. Vous dites aussi, par exemple, dans un milieu particulier qui est celui des détenus, on n'a toujours pas franchi la frontière, la barrière de la prévention encore.
Oui, tout à fait. Alors il y avait un excellent projet dans le projet de loi de modernisation du système de santé qui proposait justement de mettre en place le programme d'échange de seringues en prison. Bah, ça n'a pas pu être le cas.
Mais... Ça, vous le reprochez au gouvernement précédent,
alors,
par exemple ?
La ministre de la Santé avait proposé dans son projet de loi ce programme.
Mais ça n'a jamais été mis en place.
Mais on est vraiment dans une urgence sanitaire. Parce que les pouvoirs publics, malheureusement, considèrent encore trop souvent qu'il n'y a pas de sexe et pas de drogue en prison. Ce n'est pas vrai.
En prévention, est-ce qu'il y a par exemple des préservatifs à disposition dans les prisons ?
En principe, je dis bien en principe, effectivement, les préservatifs sont à disposition dans les prisons, mais ce n'est pas toujours le cas à ma connaissance. Et puis, ce programme d'échange de seringues est important parce qu'on a pu documenter certaines situations qui démontraient que les détenus, n'ayant pas accès à ce matériel-là, se fabriquaient eux-mêmes leurs propres seringues avec des stylos bigs et puis des aiguilles qui s'échangent entre eux, donc bien évidemment vous vous doutez bien que les contaminations elles se font par ce biais-là et j'espère que le gouvernement là-dessus pourra avancer.
On retournait dans les années 80 du sida avec le film présenté à Cannes 120 battements de cœur. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé depuis, mais de ce qu'on entend de votre discours, c'est que le chemin sur l'acceptation est encore très très long.
Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de représentations, beaucoup de clichés qu'on se fait aussi par rapport aux populations les plus concernées, à savoir les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les usagers de drogue, on vient d'en parler, les travailleurs du sexe, et puis les migrants surtout, parce que je rappelle quand même que sous ce dernier gouvernement Valls, on n'a jamais eu autant de mises en rétention et d'expulsions d'étrangers malades, et ça c'est important de le rappeler, parce qu'une personne malade par exemple, qui va être atteinte du VIH, qu'on renvoie chez elle sans aucune garantie qu'elle puisse avoir accès au traitement, c'est quelque part les envoyer à une mort certaine.
Et la ministre de la Santé est aussi ministre des Solidarités.
Des Solidarités, effectivement. Donc on compte sur elle.
Quelle actualité santé suivre la semaine prochaine, Daniel ?
À signaler lundi, une décision de l'Académie de médecine, décision importante sur la conservation des ovocytes. Et puis jeudi prochain, la journée de réflexion sur les greffes et dons d'organes.
Merci Daniel Messager.